Mais on va commencer, en fait, je vais te demander de te présenter un peu, tout simplement, puis dis-moi un peu ce qui te vient et je composerai.
Présenter, c'est-à-dire mon identité.
Par exemple.
Voilà. Donc, je m'appelle Apostolo Marguerite. Je suis née à Septem, le 15 février 1950. J'ai habité à Septem jusqu'à l'âge de 20 ans à peu près, non 21 ans. Et voilà, après je suis venue habiter à Aix parce que j'y travaillais.
Tu faisais quoi?
J'étais infirmière. Voilà.
À quel âge tu as commencé
à... J'ai commencé à travailler, en fait, j'ai eu mon diplôme d'État à 20 ans.
C'était un diplôme d'infirmière.
Diplôme d'État d'infirmière à 20 ans. Et j'ai travaillé, c'était en 1969, quand j'ai eu mon diplôme d'État. Et j'ai travaillé jusqu'en 1973 à l'hôpital Nord, à Marseille. Et après, pour des raisons diverses, je suis venue travailler à l'hôpital d'Aix. Enfin, surtout des raisons... J'avais envie de m'éloigner un peu du cocon familial. Et bon, comme j'habitais Septem et que je travaillais à 5 ou 6 km de mon domicile, c'était difficile de sortir du giron familial, donc j'ai choisi un hôpital un peu éloigné pour prendre un peu de recul. Voilà.
Mais pas trop quand même.
Non, pas trop, mais suffisamment pour que les horaires d'infirmière étant quand même des horaires un petit peu difficiles, c'est-à-dire tôt le matin, tard le soir, c'était suffisamment éloigné pour que je justifie de prendre un studio à Aix. Et puis bon, j'avais quand même donc 23 ans à ce moment-là. Et voilà. Donc j'ai pris un studio à Aix. À la fois un travail, à la fois un peu mon indépendance. Voilà.
Et sinon, donc avant d'être infirmière, tu as fait quoi comme études?
J'ai fait des études secondaires courtes. C'est-à-dire que je suis allée jusqu'en seconde. Et la seconde, c'était pas très bien passé parce que c'est une année où mon père avait été malade. Et que bon, ça a quand même perturbé passablement toute la famille. Et moi en particulier. Puis, je crois que ce qui s'est passé en fin d'année, en fin de seconde, c'est que je devais doubler la seconde. À ce moment-là, mon frère était marin. Loin de nous, puisqu'il était embarqué sur la Jeanne d'Arc. J'ai été en première ou en terminale, et moi en seconde. Donc, quand papa était malade, je pense que bon, on ne savait pas très bien comment les choses allaient se passer. Et plutôt que de doubler la seconde, bon, probablement, j'avais pas... Je ne montrais pas des aptitudes particulières pour faire de longues études, mais c'est vrai aussi que c'était une période où je pense que l'idée qu'on ait chacun un métier rapidement devait un peu faire partie des préoccupations de ma mère, qui se retrouvait un peu paniquée avec donc mon père qui ne travaillait plus et dont on comprenait qu'il ne travaillerait jamais plus. Donc, c'est vrai que quand moi j'ai manifesté le souhait d'apprendre un métier, je pense que ça s'est fait comme ça. Il n'y a pas eu de grande discussion familiale, parce qu'il y avait que ma mère et avec qui je pouvais en parler. Et voilà, alors au départ, j'avais quand même envie d'être puéricultrice. Et lorsque là j'ai décidé d'arrêter le lycée en seconde, d'abord je pouvais le faire parce que c'était pas encore une époque où il fallait le bac pour entrer à l'école d'infirmière, ce qui n'est plus le cas maintenant, mais à l'époque c'était tout à fait possible. Et par contre, j'étais trop jeune pour rentrer à l'école d'infirmière parce que je n'avais pas encore 18 ans. J'avais une année là entre mes 16 ans et la possibilité de rentrer à l'école d'infirmière était. Il y avait pas de. C'était trop tôt, même avec une dérogation, je ne pouvais pas. Donc j'ai fait une année, j'ai préparé un certificat d'auxiliaire de puériculture. Pardon, qui me mettait déjà un peu dans le pied à l'étrier. Voilà, et puis donc ça a duré une année. Et au bout de cette année, les choses s'étaient, je ne dirais pas arrangées à la maison, mais c'était stabilisé, il n'y avait pas d'urgence à ce que j'aille travailler, parce que là, j'aurais pu commencer à travailler déjà avec ce diplôme-là. Mais bon, il y avait moins d'urgence à ce que je me retrouve au travail, et donc j'ai à la fois cherché du travail et j'ai à la fois présenté le concours d'entrée à l'école d'infirmière. Et j'ai réussi le concours. Donc, je suis passée d'une formation à une autre. Et ce qui m'a permis d'avoir l'âge. Entre-temps, il s'était écoulé quelques mois qui m'avaient permis. Je n'avais pas tout à fait 18 ans. Je suis rentrée à 17 ans et je ne sais plus combien de mois, 6 mois ou 8 mois. Enfin, et là, j'ai obtenu une dérogation. Voilà, donc après, j'ai fait mes 2 années d'études, puisqu'à l'époque, ça ne durait que 2 ans. Et puis, j'ai fait mes études à l'hôpital Nord, enfin, dans une école d'infirmière qui était à l'hôpital Nord, et je suis rentrée tout de suite à l'hôpital Nord, dans la foulée.
C'était quand même une vocation, quoi.
Eh bien oui, et puis finalement, oui, oui, parce que mon idée d'être puéricultrice ne m'avait pas quittée. D'abord, en plus, en ayant fait ce diplôme d'auxiliaire de puériculture, ça n'avait conforter cette envie de faire. La seule chose qui me rebutait un peu, c'est que pour être puéricultrice, il fallait avoir un diplôme d'infirmière. Et je n'étais pas très sûre que ça, c'était quelque chose que j'arriverais à faire. Et j'ai quand même attaqué les études d'infirmière en me disant, après je ferai puéricultrice. Et puis, en fait, j'ai découvert d'autres choses qui m'ont plu aussi, tout en gardant cette idée de travailler auprès des enfants, ce qui n'a pas été difficile du tout à la fin de mes études d'infirmière, parce que c'était pas des postes qui étaient très demandés, donc j'ai eu sans aucune difficulté un poste dans un service de pédiatrie, et j'y ai travaillé de 69 à 73 à l'hôpital Nord en pédiatrie, et puis je suis arrivée après sur Aix aussi mi-73. Il y avait de la place en pédiatrie aussi, et j'ai continué à travailler en pédiatrie jusqu'en 78 en fait. Et puis à cette date-là, comme il s'était passé beaucoup de temps et j'avais beaucoup travaillé auprès des enfants, et finalement je me disais que de faire le diplôme de puériculture, j'avais l'impression que ça m'apporterait plus grand-chose vu que j'avais déjà presque 10 ans d'expérience. Alors, je ne sais pas si c'est une bonne idée ou pas une bonne idée, mais en tous les cas, je ne l'ai pas fait. J'avais la possibilité de faire des études de spécialisation, puisque en travaillant à l'hôpital, on a la possibilité de faire des études en étant rémunéré. Mais au lieu de faire puériculture, finalement, j'ai réfléchi, puis probablement on m'a aidé à réfléchir à ça. Être puéricultrice, c'est un petit peu enfermant aussi dans une spécialité. J'étais peut-être un peu à un tournant, je me suis dit, en plus à Aix, les possibilités pour les puéricultrices sont assez limitées, le service n'est pas très grand. Donc ça voulait dire que toute ma carrière, j'aurais fait au même endroit, quoi. Bon, alors j'avais pas. Finalement, j'ai réfléchi et j'ai préféré. Préparer quelque chose qui me permettait de monter sur le plan dans la hiérarchie, d'évoluer sur le plan social, donc, et qui m'a fait de ce fait quitter un peu les secteurs des enfants, mais pour avoir d'autres fonctions qui n'étaient plus tout à fait celles d'infirmière. Et voilà, donc j'ai fait ça dans les années 78. 78, 79, j'ai préparé un diplôme de cadre, donc qui me permettait d'avoir une fonction un petit peu plus élevée dans la hiérarchie. et qui est une des rares filières dans la carrière hospitalière qui donne un certain avancement. Sinon, bon, bien sûr, on peut être infirmière et puis on franchit des échelons, mais il arrive un stade où il n'y a plus d'échelons et voilà, on est au bout de la carrière et on a encore 20 ans à travailler. Donc, bon, c'était un moyen aussi de... Et à la fois de... Bon, ben... d'avoir une situation un peu plus intéressante et puis surtout aussi, au bout de 10 années, on commence à peiner un peu à se lever à 5 heures et à se travailler quand tout le monde est en congé, à travailler les jours de fête, à travailler les jours fériés, à travailler l'été, voilà. Donc, bon, c'était aussi une possibilité d'avoir une vie un peu plus régulière.
Et maintenant, donc, tu fais quoi dans ton service?
Alors,
dans quel service exactement?
Maintenant, entre-temps, il s'est encore écoulé 10 ans, puisque j'ai fait ça en 78, et 10 ans après, enfin... 12 ans après, en 90, j'ai pris un grade supplémentaire, mais là c'est un grade qui s'acquiert en interne en fonction de son déroulement de carrière, qui est le grade, bon, qui s'appelait à l'époque lorsque je l'ai pris, surveillant de chef, et qui maintenant s'appelle le grade de on a changé de nom il n'y a pas longtemps, je n'ai même pas retenu encore. Cadre supérieur de santé. Voilà. Ça s'appelle comme ça.
Mieux, c'est vrai.
Cadre supérieur de santé. Et ce, donc, depuis 90. Mmh. Voilà. Et là, par contre, je suis au bout des possibilités, je dirais, des métiers qu'il existe dans cette filière-là. Puisqu'il y a au-dessus de moi plus que l'infirmière générale, enfin qui s'appelle maintenant directeur des soins. Et bon, là c'est quelque chose qui me demanderait de faire beaucoup d'efforts en matière d'études, d'abord parce que j'en ai pas fait beaucoup et que pour me mettre à niveau ce serait peut-être trop difficile, enfin j'en sais rien, je me suis jamais réellement intéressée à la question. C'est pas quelque chose qui me branche beaucoup. Et j'étais pas motivée pour faire ces efforts. En plus, il n'y a qu'une seule école en France, elle est à Rennes. Bon, je le sentais pas bien, quoi. Donc, c'est quelque chose que je n'ai jamais fait. Voilà. Alors, la seule petite compensation qu'on a eue, c'est l'année dernière, il y a eu un reclassement un peu des professionnels de santé. Et de ce fait, j'étais au bout. De mes possibilités, de mes échelons et de tous les indices que je pouvais avoir. Et de nouveau, du fait qu'il y a eu un reclassement, bon, j'ai encore quelque chose à gagner en échelon supplémentaire, encore d'ici la fin de ma carrière, qui pourrait se situer en 2005, puisque j'aurai les annuités, à moins que... actuellement, on est à 37 ans et demi, à moins qu'on passe à 40 annuités, comme la plupart des professions, dans le privé. Mais ça, je ne sais pas encore.
Et tu parlais de Rennes, tu aurais été prête à partir justement plus loin d'Aix ou de Marseille?
Non, c'est-à-dire au moment où j'aurais eu la possibilité de le faire, je n'étais plus prête à le faire parce que c'est aussi tombé avec le fait que je suis venue vivre ici et que... Bon,
j'avais... C'est-à-dire ici?
Ici, à Montpérin.
Oui,
Oui.
Préciser.
Ouais. Non, c'est tombé à un moment de ma vie où je me suis installée à Montpérin avec Jacques. Enfin, en tous les cas, que j'ai commencé à vivre avec Jacques, pas tout de suite à Montpérin, mais en tous les cas avec lui. Et c'était pas une période où j'avais envie de m'éloigner de ma vie personnelle et d'Aix par la même occasion. Alors c'est vrai que peut-être je l'aurais fait avant, j'aurais pu le faire, parce que j'avais plus de liberté, je dirais. Et puis je ne l'ai pas fait, et voilà.
Mais ça ne t'aurait pas dérangé de devoir partir de la région, bon, autant pour la famille que pour la région ou...
Dans la mesure où c'était dans un temps limité, c'est-à-dire pour une durée de 10 mois, non, je l'aurais fait.
Mais, sinon,
mais le risque après était de... de ne pas trouver de poste, par contre, dans la région. Parce que ça, ce sont après des postes nationaux. Et là, c'est concours national.
Vivre ailleurs, c'est quelque chose que tu aurais pu envisager ? Sans parler je pense, vie personnelle, oui. Forcément.
Quoi, mais eh ben juste... non, je pense que la, j'aurais pu envisager de vivre ailleurs. C'est une bonne question, ça. Non, je crois que les seules raisons qui m'auraient poussé à vivre ailleurs, c'est soit une raison économique qui fasse que je ne puisse pas trouver de travail. Mais je n'ai jamais vécu, moi, ça, parce que j'ai un métier qui m'a permis de ne jamais me trouver dans cette situation. Donc je pense que pour une raison économique et pour pouvoir garder mon indépendance, je l'aurais fait. Enfin, pour avoir une indépendance financière, je dirais. Ou alors pour des raisons, par contre, complètement affectives. Là, je l'aurais fait aussi. Si j'avais dû suivre quelqu'un, bon, Jacques en l'occurrence maintenant, mais ça aurait pu être quelqu'un d'autre avant, je l'aurais fait. Oui, oui, j'aurais pu m'éloigner de ma famille, oui.
Et tu te sens quand même attachée à la région ?
Ah oui, je suis très attachée à la région, mais parce que je suis très attachée au climat. Je crois que c'est une des raisons essentielles qui me fait être attachée à la région.
Au niveau des traditions, un peu, des
aussi, gens, ouais. Aussi, ça c'est ma culture. Ouais. Bon, j'évolue dans une culture plutôt provençale, bon, pas extrêmement provençale, mais quand même, une culture... méridionale, provençale par certains côtés, tout un côté de mes grands-parents maternels. Donc je suis attachée à la culture et ça m'aurait manqué par contre. On peut en importer un peu de soi, de sa culture, hein, quand on va quelque part. Mais c'est pas aussi facile que ce qu'on croit. Hein. J'ai pour exemple, bon, la famille de Jacques, qui n'a pas du tout la même culture. D'abord parce qu'en Bourgogne, on n'a pas la culture provençale. Et qui, je trouve, ont peu de traditions. Et je trouve ça un peu dommage que Noël, par exemple, soit une fête avec très peu de traditions. Enfin, voire pas du tout. Oui, on se fait des cadeaux parce que c'est Noël, mais... Je pense qu'il y a moins de traditions provençales enfin, moins de traditions, tout court, bien sûr, provençales non, mais de traditions. Et j'aime bien, par contre, ça, en parler, ou bon, j'essaie de les faire passer à Jacques, qui ne les a jusque-là avait très peu connus. Mais. Quand même, ça n'aurait pas été une barrière totale au point de m'empêcher de quitter mon giron familial complètement, quoi. Hein, voilà. Mais je dois dire que... Pardon. que les traditions, mais surtout le climat, c'est ce qui me dérangerait le plus si je devais quitter la région.
Je comprends. Et la langue provençale, tu la comprends ? Tu l'as déjà parlé ?
Je la comprends un petit peu, mais quand c'est quelques mots. Et puis je comprends surtout celle qui est pratiquée chez moi par ma grand-mère. Alors est-ce que ma grand-mère pratiquait, que donc ma mère pratique un peu, mes tantes et oncles un petit peu. Alors maintenant, si je suivais une conversation... de provençal de Mistral par exemple, je pense qu'il y a des mots que je comprendrai, et puis il y a des, je comprendrai peut-être le sens de l'histoire, mais peut-être pas tous les mots et la traduction de tous les mots.
Mais ça reste plus au niveau un petit dicton.
Voilà. Je n'ai jamais appris le provençal, c'est quelque chose que j'aurais aimé faire, mais. À la période où moi j'allais au lycée, ça n'existait pas. Je sais que ça a existé à certains endroits et dans certains lycées, mais pas dans le mien. Et ça, c'est quelque chose que j'aurais aimé, effectivement.
Et tes parents, pareil, ne parlaient pas le provençal, donc à la maison
Non. Seulement des petites phrases comme ça. Des dictons, des...
Mais... sinon, non. Tu parles d'autres.
Ma grand-mère le parlait un peu, mais elle est plus tendance à le, je dirais, le lâcher dans la conversation. Ça faisait plus partie de son langage courant, elle. Mais bon, ma grand-mère, elle était née en 1893, donc c'est quand même...
Et tu parles d'autres langues, sinon ?
J'ai appris l'anglais, bah, j'ai appris l'anglais comme tout le monde au lycée, donc c'est-à-dire en quatrième, troisième, enfin bon, les quelques années que j'ai fait au lycée, jusqu'en seconde, où je ne l'ai jamais pratiqué à ce moment-là, donc bon, je ne savais pas grand-chose. Bon, comme j'ai beaucoup voyagé, la survie fait qu'on a besoin de s'y mettre quand même. Quand on est des pays étrangers, ben, l'anglais, ça aide à sortir de certaines situations délicates, mais c'est pour la vie quotidienne, je dirais, hein, la vie courante. Sinon, je ne...
Et les voyages, justement, c'était des voyages plutôt longs ou c'est arrivé déjà que tu partes certains temps ou...
Non, enfin, je ne sais pas ce que tu mets dans le long, si c'est 6 mois ou si c'est 15 jours.
15 jours, c'est quand même assez bref.
Oui. Donc non, je ne. Non, voilà, les voyages que j'ai faits sont des voyages de vacances. Et donc, à partir du moment où je travaillais dans la fonction publique, je n'avais que, comme tout un chacun, 4 semaines de congé. Bon, maintenant un peu plus, parce qu'on nous en donne un peu plus. Mais bon, mes voyages ne sont jamais allés au-delà de 3 semaines.
Et qu'est-ce que tu pratiques comme loisir, apparemment, voyager?
Maintenant, maintenant dans mon grand âge, non, je n'ai pas d'activité culturelle. Je n'ai pas d'activité culturelle. Non, je dois dire que je me satisfais. Je me satisfais de ma vie. Telle qu'elle est, d'abord parce que j'ai peu de temps. Bon, je suis consciente que c'est une excuse, hein, le temps. Donc je le dis avec le sourire, parce que si je voulais trouver 2 heures par semaine pour avoir une activité, je pourrais le faire. Voilà. Donc ça veut dire que je n'ai pas. Oui, je lis surtout en vacances. Là, pendant les vacances, parce que j'ai le temps d'entamer un livre et d'aller jusqu'au bout. Ici, après, pas ici, mais lorsque je ne suis pas en vacances, j'ai toujours un livre sur ma table de nuit, mais une fois que j'ai lu 2 pages, je m'endors, donc...
Pareil.
Donc j'ai du mal à... Et je ne suis pourtant pas une fan de télé, je veux dire, je remplace pas l'un par l'autre, mais le soir, je n'y arrive pas, je suis fatiguée, je m'endors, donc bon. Alors par contre, en vacances, oui, j'en lis 2-3, comme ça, parce que j'aime bien lire, mais voilà, la seule chose que je m'octroie un peu, c'est 1 heure d'aquagym par semaine, parce que ça me fait du bien. À mon corps, je ne sais pas, mais à ma tête, oui, parce que l'eau, ça déstresse, et bon, bien souvent, j'ai quand même des journées assez stressantes, et ça me permet de relâcher un peu, donc j'aime bien faire ça. Et j'essaie de m'y tenir 1 fois par semaine. Voilà.
Très bien, ben merci.